L'Évangile de Luc au chapitre 7, et on va lire à partir du verset 1er un récit certainement que nous connaissons et qui nous parle de la foi. Jésus, dans un autre contexte, va poser cette question, hein, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question que Jésus pose, et nous voulons ce matin, bien oui Seigneur, quand tu viendras nous chercher, nous voulons que tu trouves la foi en nous, et ce matin on va partager ce texte et puis quelques pensées sur cette foi hein, qui nous alimente. La Bible nous rappelle, le juste vivra par la foi, hein, le juste vivra par la foi. Alors on va relire ce texte dans Luc 7 au verset 1er, voilà ce qu'il est dit. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et lui envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Pars » et il part, à un autre « Viens » et il vient, et à mon esclave « Fais ceci » et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Amen. Alors ce matin, on va parler de la foi parce que c'est le thème central en tout cas de ce récit. Et c'est cette réalité que Jésus va proclamer, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et à travers ce récit, de nous encourager ce matin bien, à persévérer dans la foi, dans cette relation bien sûr particulière que Jésus a établie avec nous. Alors, quelques pensées pour nous ce matin sur la foi. La foi, dans ce récit et d'une manière générale, elle va placer Jésus au centre de nos vies. La foi replace Jésus au centre de nos vies. Avant de le connaître, eh bien, certains étaient le nombril du monde. Hein, tout devait tourner autour d'eux, autour de lui, autour d'elle. Et toute la vie était organisée autour d'une personne. Dans certaines équipes, eh bien, il y a parfois le jeu de l'équipe qui tourne tout autour de la vedette, de la star. Et on va fonctionner en fonction de la vedette, bien sûr, pour qu'il puisse marquer, etc. etc. Mais la foi, désormais, eh bien, va placer Jésus au centre de nos vies. Dans ce texte, vous l'avez entendu aussi avec moi, il y a plusieurs intervenants. Il y a plusieurs personnages, il y a un officier bien sûr romain, il y a son esclave, il y a des anciens, des juifs, il y a même des amis qui sont envoyés. Et s'ils sont cités, bien c'est parce qu'ils font partie de cette histoire, ils font partie de ce récit, parce que cette histoire bien sûr les touche, les interpelle, les concerne, voire les implique. Chacun y prend part à sa manière, bien sûr, en essayant alors d'apporter son analyse, son conseil, son aide. Je pouvais même imaginer peut-être qu'avant, c'est pas écrit, mais cet officier romain est consulté un ou des médecins militaires. C'est un officier romain, hein, donc un centenier, et il a pu prendre contact avec le médecin militaire du casernement pour voir son esclave, cette paralysie, etc. On peut l'imaginer, mais il n'y a pas eu de résultat. Finalement, ce matin, on pourrait dire que c'est aussi l'histoire de nos vies, hein, où il y a toutes sortes d'événements, de personnes, de situations, de relations qui font ce que nous sommes aujourd'hui. Je n'ai pas la même vie que la vôtre, nous n'avons pas le même arrière-plan, le même contexte, et tous ces éléments de nos vies depuis notre naissance, et parfois même avant notre naissance, eh bien, ont fait ce que nous sommes aujourd'hui, des rencontres improbables, des personnes qui nous ont motivés ou démotivés, et puis des situations qui nous ont meurtris ou qui nous ont aidés, font ce que nous sommes aujourd'hui. Peut-être la question fondamentale de ce texte est finalement, mais en qui, en quoi faisons-nous confiance pour nous guider, pour nous aider, pour nous conseiller, pour nous reprendre? Mais en qui, en quoi faisons-nous confiance? C'est la question fondamentale. Alors, avec notre vie, bien sûr, on a établi une échelle de niveaux qui nous propose différentes solutions en cas de problème, en cas de difficulté. Peut-être que vous avez sur votre chaudière, on parlait tout à l'heure avec quelqu'un d'un chauffe-eau qui a lâché, hein, en cas de problème, contactez le numéro de dépannage, etc. 24 heures sur 24, 365 sur 365, bon, voilà. En cas de problème de chauffage, j'ai un numéro. Si j'ai un problème de voiture, j'ai en principe mon garagiste. Et puis, on a le médecin, on a le notaire, etc. À chaque difficulté, à chaque problème, à chaque besoin de conseil, eh bien, je peux faire intervenir quelqu'un. Et j'ai une échelle ici, une échelle de niveau de confiance, finalement. Parce que la source, un petit peu, de ces relations, c'est ça repose sur un minimum de confiance. Si vous n'avez pas confiance à votre garagiste en lui demandant de faire une vidange qui vous refait la peinture, ça va aller une fois, la facture ne va pas être la même. Si vous n'avez pas confiance en votre chauffagiste, hein, qui pour une fuite de robinet vous change toute l'installation, il y aura un problème. Et souvent, on est obligé de faire plusieurs devis. Hein, parce que, bon, il y en a qui en profitent. Et la base de notre vie, un petit peu, une des bases, c'est quand même la relation de confiance que nous pouvons avoir les uns envers les autres. Et la foi, par définition, c'est une relation de confiance qu'on va établir, ou plutôt que Dieu va permettre que nous puissions établir avec lui, et en particulier, bien sûr, avec Jésus-Christ. Parce que le point de départ de ce récit, c'est ce verset 3 où il nous est dit ceci, « Le centenier romain entendit parler de Jésus. » L'officier romain va entendre parler de Jésus. Moi, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a pu entendre, cet homme, hein, pour placer désormais Jésus au centre de son histoire, Jésus au centre de son problème, Jésus au centre de sa difficulté? Qu'est-ce qu'il a pu entendre, cet officier romain, pour placer Jésus ainsi au centre et puis avoir cette foi qui se développe? Eh bien, rien que dans sa ville Capernaum, y compris dans la synagogue qu'il a contribué à faire construire. Alors, je ne sais pas s'il a fait des dons, je ne sais pas s'il a donné un bout de terrain, je ne sais pas s'il a aidé à avoir certaines autorisations, mais en tout cas, il est dit qu'effectivement, cet officier romain, il a contribué à ce que cette synagogue soit établie. Eh bien, même dans cette synagogue, y compris dans cette synagogue, il y a eu des miracles que Jésus a accomplis. Jésus a enseigné, il y a eu des guérisons. On relit Luc 4:1 parce que ça nourrit sa foi. Et ça peut nourrir également la nôtre ce matin. Luc 4:31. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Il les enseignait le jour du sabbat. Et cet officier romain, il est en poste dans cette ville. Et il commence à entendre ces choses. On était frappé par son enseignement. Il parlait avec autorité. Dans la synagogue que cet officier romain a aidé à construire, il se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque, impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée. Il sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Mais quelle est cette parole ? » Il commande avec autorité, on y reviendra tout à l'heure, et puissance aux esprits impurs. Et il sort et sa réputation gagna toute la région. Et puis il sort de la synagogue. Il est invité chez Pierre, vous connaissez la suite, sa belle-mère est malade, il y a la fièvre, etc. Et puis Jésus va la guérir et elle va se lever pour le servir. Et puis c'est à Capernaum qu'il y a aussi ses quatre amis, vous vous en souvenez, qui apportent ce paralytique. La maison de Pierre, elle est bondée. Ils vont découvrir le toit, faire passer cet homme et puis Jésus là aussi va pardonner et va guérir. Et tout cela, imaginez un petit peu l'atmosphère dans cette ville. de Capernaum. Hein, on ne parle plus que de cela. Il n'y avait pas encore Internet et SMS, vous le savez, à l'époque, mais on ne parle que de ça. Et ce centenier romain, il est confronté à des témoins. Il va discuter avec eux, peut-être que même dans sa propre famille, chez ses propres soldats. Certains vont être guéris, certains vont avoir quelqu'un dans la famille qui va être guéri, et ça va faire comme une traînée de poudre. Et là, il y a quelque chose d'important. Ce centenier romain va être informé, c'est vrai, mais il ne va pas simplement se tenir à l'information. Bon, j'ai entendu ça, puis ben, je passe à autre chose. L'information qu'il va recevoir va devenir foi. Il ne va pas en rester aux faits divers, ce qu'il entend, mais il va en nourrir son âme. Et chaque jour, j'oserais dire chaque nuit, eh bien, ces éléments de vie, ces guérisons, cet enseignement de Jésus va nourrir sa foi. Va l'aider à faire confiance à Jésus, va l'aider, avant même qu'il le rencontre, va l'aider à placer Jésus au centre de ses pensées, au centre de ses prières, au centre de sa vie. La foi place, replace Jésus au centre de notre vie. J'aime bien ce texte de Matthieu 6, 21. On l'a chanté tout à l'heure, et j'aime bien ce chant. Cet officier romain va faire de Jésus son trésor. J'aime bien la pensée. Faire de Jésus son trésor. Alors, Jésus dira dans un autre contexte, c'est vrai, hein, c'est celui des finances, des biens matériels, mais on pourrait, ce matin, sans tordre l'écriture, l'appliquer également à une plus large étendue. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. N'oublions pas quand même le contexte de l'époque, hein. Israël est occupé par les Romains. Les Romains occupent Israël, bien sûr, et y exercent une autorité qui est mal vécue. Et non seulement cet officier va aider à la construction de la synagogue, qui est déjà un miracle en soi, mais il a des liens particuliers, privilégiés avec les autorités, avec les anciens de cette ville. Mais en plus, eh bien, il va faire une démarche envers Jésus qui commence quand même à être controversé, contesté par les religieux de l'époque. Et pourtant, bien, cet homme, ce Romain, va placer Jésus au centre de sa vie, au centre de son histoire. Et pour nous, bien, ce matin, la foi place Jésus au centre de notre histoire et ainsi bien, nous donne de ne pas avoir honte de Jésus. Cet homme n'a pas eu honte de Jésus de l'interpeller et il l'a placé au centre de son histoire. Que Dieu nous aide également ce matin à renouveler notre foi en nourrissant notre âme, notre esprit, bien de ce que Jésus est venu nous faire, nous apporter, de ce qu'il nous fait encore, de ses promesses, afin que notre foi soit alimentée, hein, comme un bon feu qui est constamment alimenté, parce que la foi, elle replace toujours Jésus au centre de notre vie, au centre de notre foi. C'est une question de confiance. Ou dans ce que dit Jésus, eh bien, nous savons qu'il l'accomplira. Deuxième pensée, la foi s'exprime aussi dans l'humilité. La foi s'exprime dans l'humilité. Il y a un autre récit, c'est Matthieu. Matthieu nous parle également de cette rencontre, mais là, il nous est dit, Matthieu le voit sous un autre angle, et peut-être qu'on pourrait mettre ensemble les deux récits, qu'à un moment donné, il est dit que c'est le centenier qui va venir vers Jésus. Vous relirez ça dans Matthieu si vous voulez. Mais finalement, quel que soit le texte, eh bien, la mentalité du centenier est mise en avant. Et cette mentalité, c'est son humilité. Il y a une déclaration hein, qui est dans la bouche de cet homme. « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. » « Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu entres sous mon toit. » Et pourtant, ce centenier, on l'a vu déjà, c'est un homme quand même qui est important, qui est considéré. Il représente la puissance, l'autorité de Rome. Un centenier, aujourd'hui, on pourrait dire, c'est un capitaine, c'est un gradé, c'est un officier. Mais en même temps, il est animé de sentiments nobles envers Israël. Il aime notre nation, hein, dira des Juifs. Et puis, eh bien, il a des sentiments envers son esclave. Tous les maîtres d'esclaves à Rome n'ont pas les mêmes sentiments. Pour Rome, dans cette Rome à l'époque, l'esclave est moins bien considéré pour certains que les animaux. Avoir un esclave qui meurt, ça pose aucun problème pour certains maîtres. Il suffit d'aller au marché aux esclaves, on le remplace. On traite mieux certains chevaux hein, de course, de chars, que des esclaves qui les soignent également. Et là, eh bien, on voit que cet homme il a d'autres sentiments, même envers son esclave. C'est donc quelqu'un qui, face à Jésus, aurait pu mettre en avant sa position, sa renommée, sa respectabilité dans la ville. Mais eh bien non, la Bible nous dit que c'est dans l'humilité qu'il va exprimer sa foi. C'est dans l'humilité qu'il va exprimer sa foi. Il le fait par une demande, par une supplication, et non pas par un commandement. C'est un militaire. Il aurait pu commander, envoyer un ordre à Jésus pour qu'il vienne guérir sur le champ bien, son esclave. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il se présente, ou qu'il envoie plutôt dans ce texte des Juifs d'abord, eh bien, il est dit qu'ils vont demander, il va envoyer une demande, une supplication. Une supplication. Ce matin, là aussi, face à Jésus, nous ne pouvons qu'exprimer notre foi dans l'humilité. Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous pour imposer, pour commander ? Nous ne pouvons que, comme cet homme, eh bien, demander, supplier dans la foi, dans l'humilité. Et il y a le psaume 34, verset 18, je pense qu'on l'a sur... nous dit ceci, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Et c'était bien la réalité de cet homme. Je crois que c'est le psaume 51 aussi, verset 17 qu'on avait mis. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Et puis vous connaissez tous ces paroles de Jacques reprises par Pierre, etc. Dieu résiste aux orgueilleux, mais, il y a un mais il fait grâce aux humbles. Je ne sais pas si je te l'avais donné, je ne pense pas, mais on le connaît celui-là. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On se souvient dans notre récit, dans Luc 19, les circonstances un peu différentes, c'est Jésus qui demande à un certain Zachée d'entrer dans sa maison, vous en souvenez, hein? Et là, il va l'interpeller. De quelle manière il l'interpelle ? C'est intéressant. « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Alors, bien sûr, il faut que Zachée descende physiquement de son sycomore, puisque de petite taille, il s'était élevé pour voir Jésus passer donc dans sa ville, à Jéricho. Mais il y a aussi une autre portée de cette parole pour Jésus. Rencontrer Jésus, lui demander son aide, demande à un moment donné bien de descendre alors de son piédestal, de reconnaître qui il est, de considérer bien que rien de notre personne, de notre position, de nos expériences, de nos capacités ne peuvent être mises en avant pour l'impressionner, pour le conduire à intervenir. Je ne dis pas le contraindre, mais pour lui donner quand même quelques éléments. Seigneur, c'est quand même moi. Je te connais depuis tant d'années, je te sers avec fidélité. Alors, Seigneur, tu ne peux pas faire autrement que d'eux. Eh bien non, tout cela n'a aucune valeur. Si Jésus intervient dans nos vies ce matin, c'est comme nous l'avons entendu tout à l'heure, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous aime, c'est tout. Le reste est intéressant. Le reste fait partie de notre personnalité, bien entendu. Et Jésus ne le méprise pas. Il l'utilise même parfois, nous le savons. Mais ce n'est pas ça. Les Juifs ont essayé un petit peu d'appuyer. Il mérite que, parce qu'il a construit. Quand même, il mérite. Eh bien non, ce n'est pas parce que cet homme avait construit la synagogue dans laquelle pourtant Jésus a intervenu pour délivrer cet homme tout à l'heure de cette puissance démoniaque. Eh bien ce n'est pas pour ça que Jésus a agi envers cet esclave. C'est parce que tout simplement, bien... cet homme a fait preuve aussi d'humilité et par amour pour cet homme, par amour pour son esclave, par amour pour l'humanité, eh bien Jésus s'est manifesté. Et puis cette humilité se traduit aussi bien par cette parole « Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit ». Vous vous rappelez qu'un autre l'a dit aussi dans les mêmes contextes, c'est Jean-Baptiste, Matthieu 3, 11. Le cousin de Jésus, il dira « Bien, moi je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers ». Pierre va le dire d'une autre manière lorsqu'il y a cette pêche miraculeuse. « Retire-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un homme pécheur. Je peux pas rester, tu ne peux pas rester dans ma présence. » Et en proclamant ces paroles, eh bien, ces hommes confessent la réalité de leur cœur, de leur humanité, de leur faiblesse face à Jésus, ils reconnaissent sa sainteté, ils reconnaissent sa seigneurie, ils reconnaissent sa royauté, et tout ça se bouscule en un instant dans leur cœur. De plus, pour ce centenier, on pourrait penser quand même que, connaissant la religion juive, parce qu'il la connaît, parce qu'il a dû faire des recherches, parce qu'il a été informé des coutumes pour élever une synagogue ou le permettre de construire, il y a quand même des choses que cet homme connaît, peut-être, certainement aussi, qu'il ne veut pas qu'en entrant dans sa maison, une maison de païens, une maison qui n'est pas juive, Jésus se souille en entrant dans cette maison. C'était la loi juive. Tout juif qui entrait dans une maison qui n'était pas juive, se souillait, se rendait impur et devait ensuite se purifier, se laver, faire des ablutions pour se rendre pur. Et il est tellement dans cette foi, en plaçant Jésus au centre de son histoire, qu'il ne voudrait surtout pas que, je vais dire ça comme ça, par son interpellation, Jésus se souille. C'est sa pensée. Bien sûr que Jésus ne se souille pas. On l'appellera même l'ami des gens de mauvaise vie, des publicains. Mais il avait cette conception, cette haute estime de Jésus. Il ne voulait surtout pas qu'en entrant dans son foyer, dans sa maison, Jésus soit rendu impur et qu'à cause de lui, il ne faille qu'il se purifie plus tard. On pourrait donc dire aussi ce matin pour nous que l'humilité nous conduit à considérer Jésus comme étant digne du meilleur. Alors que souvent, on partage le pire. C'est notre nature humaine, nous sommes comme ça. Mais retenons, il est digne du meilleur. Et parfois, on ne comprend pas toujours la manière de l'accueillir. Et cet homme, ce centenier romain, va l'accueillir dans l'humilité. La foi s'exprime dans l'humilité. Amen. Et puis on termine. La foi s'appuie sur l'autorité de la parole de Jésus. Ça, c'est quelque chose d'important pour nous. La foi s'appuie sur l'autorité de la parole de Jésus. Je crois qu'on a mis deux références. Romains 17, vous connaissez ce passage. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vient de la parole de Christ. Et puis dans Luc 7, versets 7 et 8, c'est le récit, là aussi encore, de cet homme. C'est aussi pour cela que je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, il vient, à l'autre, viens, il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Ce militaire, il connaît la rigueur de l'armée. Voilà. Il y en a peut-être qu'on fait leur service militaire ou d'autres l'armée, je ne sais pas. Mais il connaît les missions, il connaît les combats, il connaît la hiérarchie, il connaît les ordres. Quand on a fait notre service militaire, parfois on attendait le contre-ordre. Voilà. Pour éviter le désordre. Voilà, il y avait l'ordre, le contre-ordre ou le désordre. Bon, mais ça, c'était un petit peu notre humour à nous. Mais toute cette chaîne de commandement, nous le savons, la vie militaire, finalement, est là un protocole, elle a une directive. Tout fonctionne sur l'exécution des ordres. Sans ordre, c'est le désordre à l'armée. Alors, il faut un ordre. Et quand on a un ordre, on est couvert. Alors, je sais que parfois, on peut désobéir si l'ordre nous semble, bien sûr, incompatible, etc. Mais tout fonctionne sur la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, c'est l'ordre. Ça part d'en haut, et puis ça revient au simple soldat qui doit exécuter. Et quand cet homme commande ce centenier, on lui obéit. Et quand un supérieur lui demande quelque chose, il obéit. C'est un militaire, il ne cherche pas à comprendre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, pour lui, il n'y a aucun doute que la parole de Jésus, elle est porteuse de son autorité. À un tel point qu'il va dire quand même, dis un mot, dis un seul mot, et mon serviteur sera guéri. Pour cet homme, ce que dit Jésus s'accomplit toujours. C'est dans son fonctionnement à lui, et il le transpose pour Jésus, et il dit, et dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Marc 1, 27 nous dit ceci, il commande, là il est question de Jésus, il commande avec autorité même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Luc 8, 25, saisi de frayeur et d'étonnement, les disciples se disent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, même face à la mort de Lazare, Jésus ordonne, Jésus commande et on sait que Lazare est ressuscité. Alors ce matin, on peut se rappeler l'autorité de la parole de Jésus. Notre foi, elle s'appuie, elle s'exprime sur l'autorité de la parole de Jésus. Hein, au commencement était la parole, on connaît ces textes bien sûr. Et puis j'aime bien ce texte, je ne sais pas si je te l'ai donné, c'est dans Ésaïe 55. Ésaïe 55, c'est un beau texte qui, on en parlait mardi dans l'étude biblique. Hein, Ésaïe 55, je ne l'ai pas donné, mais je vais le lire. Versets 10 à 11, nous dit ceci. « La pluie et la neige descendent du ciel, n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans avoir fécondé, avoir fait germer les plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, elle, celle qui sort de ma bouche, elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et rempli la mission que je lui ai confiée. » Même quand nous témoignons de la part du Seigneur avec une parole de connaissance de sagesse, eh bien, si la personne accepte cette parole de connaissance de sagesse ou ce témoignage, eh bien, la parole de Dieu va faire son œuvre dans son cœur. Mais si elle ne l'accepte pas, eh bien, la parole de Dieu a fait aussi une œuvre de Dieu dans le cœur de cet homme, dans le sens où il a refusé quelque chose de la part de Dieu, son cœur s'est endurci et la parole de Dieu a provoqué une réaction également. Donc la parole de Dieu, la parole de Jésus, eh bien, s'accomplit toujours. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir produit son effet. Et ce centenier, il a compris ce principe de foi. La parole de Jésus s'accomplit toujours. Et il va l'exprimer par ce « dis un mot, dis un mot ». Cet homme n'a pas simplement une connaissance de Jésus sur ce qu'il dit, sur ce qu'il pratique, en disant « oui Seigneur, tu peux le faire ». Mais il s'implique. Et là, j'aime bien cette image hein, de ce funambule, je vous la raconte souvent, question de foi. Ce funambule qui fait une démonstration extraordinaire sur les chutes du Niagara. Je ne sais pas si vous avez déjà été aux chutes du Niagara. En tout cas, ça doit être impressionnant. Il a tendu son fil donc, d'un côté de la berge à un autre. Et puis, il y a les chutes du Niagara, bien sûr, qui sont là avec un bruit assourdissant. Et cet homme, bien sûr, va traverser les chutes du Niagara avec sa perche. Et tout le monde, bien sûr, l'applaudit lorsqu'il revient sain et sauf de l'autre côté. Tout le monde l'admire. Quel homme ! Et alors, il pose une question à la foule qui est en délire. « Est-ce que je peux faire la même chose, les yeux bandés ?» Et tout le monde dit « Mais oui, tu peux le faire, il n'y a aucun souci. » Et cet homme le fait, les yeux bandés. Il revient « Est-ce que vous croyez que je peux le faire, les yeux bandés et en marche arrière ?»« Mais bien sûr, tu peux le faire. Mais oui, tu peux le faire. » Et il le fait. Troisième question, parce qu'il revient « Est-ce que vous croyez que je peux le faire, les yeux bandés, en marche arrière, avec un homme sur le dos ?»« Oui, oui, tu peux le faire, tu peux le faire. » Et la question suivante, qui vient avec moi ? Qui vient avec moi ? Moi, j'aurais été dire, oui, tu peux le faire, tu peux y aller. Mais d'aller, et la foi, c'est ça. La foi, c'est ça. C'est d'aller avec cet homme sur le dos, voilà, sur le dos de cet homme, les yeux bandés en marche arrière, aller-retour. Il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment avoir la foi. Et cet homme, ce centenier romain, avait compris que la foi, eh bien, elle s'appuyait sur l'autorité de Jésus. Lorsque Jésus dit quelque chose, cela s'accomplit. Alors, nourrissons notre foi ce matin et on va conclure. Hein, la foi, a dit un collègue, c'est comme un muscle. Elle s'use si on ne s'en sert pas. Peut-être quelqu'un un jour a été plâtré, hein, plâtré plusieurs semaines. Alors, quel que soit l'endroit où le plâtre, quand on enlève le plâtre, en dessous le muscle, il a fondu, hein. Parce qu'elle n'a pas été utilisée. Par contre, la foi, eh bien, elle se fortifie, la foi, elle se muscle quand on s'en sert. Et comme pour cet homme, eh bien, ce matin, nourrissons notre foi de la parole de Dieu, méditons sa parole, nourrissons-la, mettons-la en pratique, vivons-la, et ainsi, eh bien, nous pourrons être comme cet homme. Alors, la conclusion, Jésus admira le centenier. J'ai mis « waouh » sur mon message. Ah oui, Jésus qui admire le centenier. On dit, comment ça, on a ces textes, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, etc. Mais là, la Bible nous dit que Jésus admire. C'est même pas marqué qu'il admire la foi du centenier. On aurait pu dire, bon, ça je peux comprendre. Mais Jésus admire le centenier. Admirer, c'est considérer avec enthousiasme. C'est exprimer une forme de respect. Mais j'aime bien l'expression, hein, considérer avec enthousiasme. Hein, l'enthousiasme, littéralement, c'est être en Dieu, se réjouir en Dieu. Mais Jésus, effectivement, va trouver en ce Romain des valeurs de son royaume. Jésus trouve dans cet étranger, dans ce centenier, dans cet officier romain, des valeurs de son royaume. Et c'est ce qui fait qu'il l'admire. Parce que sur ce terrain de la foi de cet homme, eh bien, la parole de Jésus va accomplir son œuvre. Et le corps de son serviteur va être guéri. Et le corps de ce serviteur va être libéré de cette maladie. Le terrain de la foi, lorsqu'il rencontre la parole de Jésus, eh bien, produit ce que le Seigneur a promis. Alors pour conclure, eh bien, la foi, j'ai mis ça, relie deux paroles que nous connaissons. Une qui se trouve dans Luc 1, 37, vous la connaissez. Tiens, vous rappelez dans quel contexte cette parole a été dite ? Moi, je le sais, j'ai regardé le texte avant vous. Bon, ça peut vous aider. Luc 1, 37. On est au début de Luc. Il est question de quoi au début de Luc ? Vous en souvenez ? L'annonce, exactement, de l'ange Gabriel à Marie, concernant la promesse à Élisabeth. Vous savez qu'elle est enceinte. Et là, Gabriel va dire, eh bien, concernant Élisabeth qui est enceinte, eh bien, rien n'est impossible à Dieu. Elle a eu cet enfant dans sa vieillesse, etc., alors que elle ne pouvait, rien n'est impossible à Dieu, c'est dans ce contexte. Et puis le deuxième texte, c'est dans Marc 9, 23. Pareil, même question, est-ce que vous vous rappelez dans quel contexte Jésus va dire à un homme, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Vous vous rappelez ? C'est pareil, moi j'ai relu le texte avant, donc c'est facile pour moi. C'est quand un homme vient auprès de Jésus, son enfant est possédé, vous vous rappelez ? Il l'amène auprès de Jésus et puis cet homme dit « Si tu peux le délivrer ?» Alors Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Tout est possible à celui qui croit. Et la foi, on pourrait dire pour conclure ce matin qu'elle relie le « Rien n'est impossible à Dieu. » Voilà, ça appartient à Dieu et rien n'est impossible. Et puis de notre part, bien, tout est possible à celui qui croit. Il y a l'impossible, il y a le possible et la foi relie ces éléments pour que ce matin, bien, nous puissions être fortifiés dans notre foi. Et on veut répondre à cette question du Seigneur qu'on a posée tout à l'heure, qu'on a rappelée. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi ? Eh bien, que ce matin, dans l'humilité, nous puissions dire, oui, Seigneur, je veux que tu trouves la foi en moi. Oui, Seigneur. Comme ce centenier romain, je crois que la foi, eh bien, elle est basée sur l'autorité de ta parole. Oui, Seigneur, je crois que la foi, elle se vit dans l'humilité. Oui, Seigneur, je crois que la foi, bien, c'est quand je te place au centre de ma vie. Et dans ces réalités, eh bien, nous pourrons dire, oui, Seigneur, je t'attends dans la foi. Amen. En tout cas, c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous pour qu'un jour, eh bien, nous puissions partir à sa rencontre avec lui. Amen. On va prendre quelques instants pour, eh bien, justement, manifester notre foi. Parce que nous croyons ce matin que ce n'est pas du vin ou du jus de raisin ou du pain, je ne sais pas ce qu'on a pris à Carrefour, simplement. Mais dans la foi, eh bien, nous réalisons les promesses de Jésus ce matin au travers de la Sainte Cène. Dans la foi, nous croyons qu'il a donné sa vie pour nous à la croix. Dans la foi, nous croyons ce matin que nous faisons partie du même corps. Nous sommes frères et sœurs ce matin les uns les autres, c'est extraordinaire. Et puis dans la foi, en prenant ce pain et ce vin ce matin, nous croyons qu'il vient bientôt nous chercher, qu'il nous prépare une place. Et cette Sainte Cène n'a de sens que de la prendre dans la foi. Autrement, elle est inutile, mais dans la foi, ce matin, nous voulons réaliser ces éléments. Amen. Je demanderai donc à nos frères, Jean-Jacques, son épouse, peut-être Céline aussi, si elle pourrait venir sur le devant pour partager ce moment de Sainte-Cène. Et puis on va se lever. Nous qui, ce matin, sommes passés par les eaux du baptême, avons confessé dans la foi le nom de Jésus, eh bien on va encore prendre quelques instants pour le bénir et le louer. Si vous n'avez pas eu l'occasion tout à l'heure d'exprimer votre louange, votre reconnaissance, eh bien, prenez encore un peu de temps ce matin. Si vous avez un don spirituel, on veut être à l'écoute aussi du Seigneur, mais que ce matin, eh bien, dans la foi, nous puissions prendre ce pain et le vin. C'est une coupe de bénédiction.